On va regarder cet après-midi le sujet du brigand sur la croix. Tout le monde, enfin beaucoup de gens connaissent cette histoire. Dans le catholicisme et dans toutes les religions chrétiennes, c'est une des histoires les plus connues de la Bible, comment Jésus a été crucifié entre deux brigands. Et un des brigands est parti sans le reconnaître comme sauveur, est parti vers la perdition. C'est un criminel. L'autre, tout aussi criminel, a entendu Jésus lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Les deux étaient des criminels endurcis. Dans n'importe quel système pénal, en France, ils auraient été en prison à vie. Perpétuité, c'est certain. Là, on pratiquait la peine capitale. Ces hommes-là étaient à exécuter, à mourir, et de la plus terrible manière que soit, par crucifixion. Les hommes ont essayé d'imaginer quelle serait la manière la plus horrible, la plus ignominieuse, la plus douloureuse pour mourir. Il y a des manières de mourir qui sont relativement rapides, mais la crucifixion pouvait durer 24 heures, 36 heures. Et on mourait finalement par étouffement, parce qu'on n'arrivait pas à maintenir, et alors on comprimait, mais avant de mourir par étouffement, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme horrible douleur? Et généralement, on les dépouillait, qu'ils étaient nus sur les croix, pour ajouter la honte et le mépris à la douleur qu'ils avaient. On n'avait rien trouvé de mieux pour faire souffrir les gens le plus longtemps possible avant qu'ils ne meurent. Et c'est donc de cette manière-là que Jésus est mort. Je sais bien qu'on met un petit linge autour de ses reins pour les statuer, tout ça. Il n'est pas certain que Jésus avait quoi que ce soit comme vêtement. Et pouvez-vous imaginer le Fils de Dieu d'une pureté parfaite, exposé comme ça, dans des douleurs atroces. Sa crucifixion a duré 6 heures, parce que Jésus a renvoyé son esprit. Les autres, ça a duré un peu plus longtemps, parce que c'était le jour avant le sabbat, et avant 18 heures, il fallait que tous les crucifiés aient quitté les croix. Il fallait ne pas voir de gens suspendus à une croix à 6 heures, parce que le sabbat commençait, et on ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un de maudit pendu à un bois quand le sabbat commençait. Donc, mais sinon, on pouvait durer toute la nuit et le lendemain. Mais est-ce que cet homme, alors imaginons sa douleur, la peine qu'il avait, les clous, la honte qu'avaient ces trois hommes, est-ce que celui qui était cloué sur la croix, est-ce qu'il a pu comprendre suffisamment de ce qu'avait dit Jésus pour en fait vraiment comprendre qui était Jésus? Ou est-ce que Jésus a simplement dit, par pitié, tiens, je vais te consoler, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas vrai, mais si ça peut te faire un peu moins mal, non. Si Jésus l'a dit, c'est que cet homme s'est retrouvé au paradis le soir même avec Jésus. Jésus a dit quelque chose en Jean chapitre 5, 24, c'est un des versets les plus connus du Nouveau Testament. Voici ce qu'il a dit. Celui qui écoute ma parole, réfléchissez, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, qu'est-ce qu'il fallait pour ce criminel endurci pendant ce jour-là? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour pouvoir aller au ciel? Il fallait qu'il écoute ce que Jésus allait dire, et il fallait qu'il croie que Jésus venait de Dieu. Sans ça, il ne pouvait pas être sauvé. Mais si ces deux conditions étaient réunies, il pouvait avoir la vie éternelle. Et les conditions n'ont pas changé. Encore aujourd'hui, en une seconde, quand on comprend ça, on écoute la parole de Jésus, on comprend qu'il vient de Dieu, on place en lui sa confiance, on est sauvé. En une seconde. Alors, celui qui écoute sa parole, on va regarder maintenant en Luc chapitre 23, puisqu'il faut voir dans le récit de la crucifixion ce que cet homme a pu entendre. Alors, je vous rappelle que les trois hommes sont amenés ensemble, les trois condamnés sont amenés ensemble, portant leur croix, à travers la porte des brebis, depuis le tribunal de Pilate, à travers la porte des brebis, Jésus est l'agneau de Dieu, vers une petite colline juste, située juste en dehors de la ville de Jérusalem, où il y avait, dans la colline, il y avait trois grands trous comme ça dans une face de la colline. Et quand on regardait cette colline, ça avait l'air d'un crâne, avec les deux trous et pour le nez et les deux yeux. Et on appelait ça Golgotha, le lieu du crâne. Parce que visuellement, ça se prêtait à ça. Et c'est en haut de cette colline que ces trois hommes ont été crucifiés, juste en dehors de la ville. Donc, pendant qu'ils vont depuis le tribunal de Pilate à traverser le bout de ville, sortir par cette porte et monter sur le mont Golgotha, avant d'être cloué, Jésus a parlé et ces deux hommes ont pu dire, entendre tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le verset 32, dans le verset 27, Jésus était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient Jésus et qui se désolaient qu'il allait mourir. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses des entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus dit cela, on conduisait en même temps deux malfaiteurs. Donc ces deux malfaiteurs ont entendu ce que Jésus a dit à ces femmes qui menaient deuil. Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit exactement? Il dit, ne vous plaignez pas de moi. Malgré là où je vais aller, plaignez-vous de vous-même. Soyez attristés par rapport à ce que vous allez vivre. Il dit à ces femmes, toutes les femmes espèrent être mères un jour viendra quand toutes les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, on va dire, elles sont bénies. Heureusement que vous n'avez pas eu d'enfants. Pourquoi? Parce que vos enfants vont connaître un terrible jugement. Et Jésus leur laisse comprendre un peu ce qui se passe. Il dit, si on fait ces choses, si on crucifie des gens qui sont innocents, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont coupables? Il dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'arrive-t-il au bois sec? Autrement dit, si vous allez faire un feu, vous avez du bois vert, vous avez du bois sec, vous prenez le bois sec, ça brûle mieux. Et pour le Romain disait, nous on est dans la justice. Des criminels, on les crucifie, mais les innocents ne sont pas coupables, on ne les crucifie pas. Il dit pourtant, Pilate me fait crucifier, alors qu'il a reconnu mon innocence. Vous, dans une génération, les Romains vont venir et détruire votre ville. Vous allez connaître des souffrances énormes, horribles. C'est pour ça, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos descendants que sur moi. Les deux malfaiteurs ont entendu ce discours. Ils ont compris l'idée du bois sec et du bois vert. C'était dans le langage de l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont compris, Pilate savait que Jésus était innocent et il le crucifie quand même. Donc, avec nous, entre nous les deux criminels, il y a quelqu'un qui est totalement innocent et le juge lui-même l'a reconnu. Et pourtant, il va mourir crucifié. C'est un premier élément qu'ils ont pu comprendre. Maintenant, dans celui qui écoute ma parole, ils ont écouté la parole. Jésus dit, et qui croit en celui qui m'a envoyé. Maintenant, il faut voir si Jésus va dire assez pour qu'ils comprennent que Jésus vient de Dieu. Dans les versets 34, enfin verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Et il ne peut et qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. mais l'autre le reprenait. Ça y est, il commence à comprendre. En disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc déjà là, l'homme est sauvé. En verset 43, il est sauvé. En verset 42, il montre qu'il a la foi. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'il a pu comprendre que Jésus venait de Dieu? Eh bien, d'abord, ils ont entendu Jésus dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Déjà plusieurs choses curieuses. Père, ils pouvaient quand même, de là où ils étaient, regarder un peu la foule. Ils ont vu la mère de Jésus et des hommes plus jeunes, de l'âge de Jésus, Jean, l'apôtre, et quelques femmes qui étaient aux pieds de Jésus. Mais il n'y avait aucun homme d'un certain âge qu'ils pouvaient prendre pour le père humain de Jésus. Si la mère de Jésus était là, le père de Jésus n'était pas là. Ça, ils pouvaient le voir. Alors quand il dit « Père, pardonne-leur », qui peut pardonner les péchés? Même les criminels le savaient. Seul Dieu pardonne les péchés. Donc, il ne parle pas à un père humain. Il parle à Dieu. Et il considère que Dieu est son père. Il demande au père de pardonner à ces gens-là. C'est déjà énorme. Mais la raison qu'il donne, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, ces criminels crucifiés pouvaient regarder. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils nous ont crucifiés. Ils savent très bien ce que c'est que de crucifier les gens. Ils le font très souvent. Nous, on est les victimes aujourd'hui. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils ont crucifié. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, la lumière a dû se faire dans l'esprit de ce criminel. Ils ne comprennent pas qui est cet homme qu'ils ont crucifié, qui est entre nous. Ils ne comprennent pas qui il est. Ils le prennent pour un prophète, la foule est en colère, Pilate est lâche, il nous fait crucifier, mais il demande à son père de pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, les Romains, ces soldats qui nous ont crucifiés, ne comprennent pas qui est cet homme, Jésus. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Il a parlé à Dieu comme si c'était son père. Il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Déjà, il n'avait jamais vu ça. La plupart des criminels crucifiés crachaient, disaient tous les gros mots et toutes les insultes qu'ils connaissaient jusqu'à ce qu'ils expirent. Ils montraient tout le venin de leur haine à ces soldats qui se moquaient, bien sûr, parce qu'ils étaient en bas, allez voir. Alors, c'était horrible. C'était une atmosphère lugubre, une crucifixion. Et ce Jésus qui demande à son Père de pardonner. Non, là déjà, ils pouvaient comprendre. Et ils ont entendu la moquerie, les gens qui se moquaient de lui. Il a sauvé les autres. Ah, il a sauvé les autres. C'est donc un sauveur. Qu'il se sauve lui-même. Ben oui. S'il a sauvé les autres, il devrait être capable de se sauver lui-même. Il est sur une croix, il pourrait en descendre, il a fait des miracles. Ils avaient entendu parler des miracles de Jésus. C'était courant, on savait qui était ce Jésus. Pourquoi ne descend-il pas de la croix? Avec un peu de logique, on peut comprendre. S'il a sauvé les autres, il est venu pour sauver les autres. S'il se sauve lui-même de la croix, il ne pourra pas sauver les autres. S'il reste sur la croix, c'est parce qu'il doit sauver les autres. Quand vous dites à un maître nageur, il y a quelqu'un qui se noie, et le maître nageur saute à l'eau, on dit au maître nageur, on ne dit pas sauve-toi toi-même, on dit sauve la personne qui périt, sauve la personne qui se noie, il est là pour ça. Les pompiers, quelle est leur phrase? Sauver ou périr? Ils sont prêts à mourir pour sauver les gens de l'incendie. Et donc, un sauveur, on sait qu'un sauveur peut parfois perdre sa propre vie dans son essai de sauver quelqu'un d'autre. Ça fait partie du risque du métier. Et donc, ils entendent cette moquerie, c'est un sauveur qui ne se sauve pas lui-même, c'est qu'il doit sans doute mourir pour sauver les autres. On peut très bien le comprendre. Un pompier qui va dans un feu, il ne va pas pour se sauver lui-même, il va pour sauver les gens qui sont au milieu du feu. Et on sait qu'il pourrait périr, mais l'essentiel pour lui, c'est qu'il sauve les gens qui sont en danger. Alors, les deux aussi ont compris que Jésus était le Christ. Ils ont dit, n'es-tu pas le Christ ? N'es-tu pas le Christ ? Les deux disaient, au début les deux se moquaient de lui, n'es-tu pas le Christ ? Ils savaient qu'il était le Christ, le Messie. Un juif savait que le Christ, d'un nom grec, était le Messie, le nom hébreu. Et ils attendaient le Messie depuis Moïse. Parce qu'un jour, Dieu a dit à Moïse et qui a dit au peuple, un jour Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et donc, ils attendaient toujours le Messie. Ésaïe en a parlé, Dieu va envoyer un sauveur, un libérateur, c'est le Messie, c'est celui qui sera oint. Et donc, ils savaient que Jésus ne niait pas qu'il était loin, loin, le Messie. Et beaucoup de gens dans la société de l'époque croyaient que Jésus était le Messie. Quelques jours auparavant, à peu près 4 ou 5 jours auparavant, Jésus est entré, vous savez, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les gens ont mis des rameaux sur le chemin, ont étendu des vêtements. Qu'est-ce qu'ils ont crié ? Hosanna au fils de David ! Hosanna au Messie ! Et c'était une marche triomphale du Messie. Ils ont dit, celui-ci, c'est notre Messie. Donc, tout le monde savait que Jésus était peut-être le Messie. Et donc, ils ont repris en cœur cette chose, n'es-tu pas le Messie ? Ben, sauve-nous, puisque tu es là pour sauver et libérer les gens. Sauve-nous. Mais l'autre avait réfléchi. Il avait entendu. Il a sauvé les autres, il ne se sauve pas lui-même. Tout ça avait fait du chemin. Il arrive à la compréhension que Jésus n'est pas un simple homme, que Jésus est Dieu. Comment savons-nous qu'il est arrivé à cette conclusion ? Écoutez ce qu'il a dit. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» La même condamnation que qui ? Que Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que Dieu ? Mais qui est Dieu dans l'affaire ? Est-ce que c'est l'un des deux malfaiteurs ? Non. C'est l'homme au milieu. C'est lui qui est Dieu. Souvenez-vous, les deux conditions. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Je viens de Dieu. Il est Dieu. Cet homme-là est Dieu. Il est condamné. Il est innocent. Il a dit lui-même, tout le monde le sait, beaucoup de gens le prennent pour le Messie, il parle à Dieu comme étant son Père, il est Dieu. Tu subis la même condamnation que Dieu, et tu ne crains pas Dieu, et il parlait de Jésus sur la croix à côté. Tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, c'est pas toi qui subis la même condamnation que moi, toi qui subis la même condamnation que lui. Ils sont tous les trois crucifiés. Et il comprend que Jésus va ressusciter et régner. Comment le savait-il ? En Jean 18, 36. Jean 18, verset 36. Pilate, c'est le tribunal. Verset 33. Alors, c'était pendant que Pilate l'interrogeait, le juge devant son procès. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» C'est toi qui imagines ça ou d'autres m'ont accusé d'être le roi des Juifs ? Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Là, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Autrement dit, on t'a livré pour être crucifié, j'aimerais savoir ce que tu as fait de mal. Dis-moi, tu es roi, tu vas faire un soulèvement, tu vas faire un coup d'État, on est sous le règne de César quand même, et puis c'est la loi romaine, et puis on ne fait pas n'importe quoi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi. Parce que Pilate n'avait aucune raison de le juger, et ça le gênait. Es-tu roi? Jésus dit, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. Ah, t'as un royaume donc. Tu es donc roi ? Dit Pilate. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Mon royaume est un royaume de vérité et je témoigne de la vérité et tous ceux qui veulent la vérité entendent ma voix, celui qui écoute ma parole. Nous ne savons pas tout ce que les autres condamnés ont pu entendre de cette discussion entre Pilate et Jésus, mais c'était quand même pendant un procès public. S'ils ont entendu ça ou si on leur a rapporté cette histoire, mon royaume n'est pas de ce monde, ah, son royaume est donc dans un autre monde. Et il n'y a que deux mondes, il y a celui-ci et puis il y a l'au-delà, l'autre monde. Il est donc le roi dans l'autre monde. Il a dit qu'il est bien roi, mais pas d'ici, donc d'ailleurs. Cet homme a assez d'éléments pour être sauvé. Il est à côté de quelqu'un qui appelle Dieu son Père, qui dit qu'il est innocent, qui demande à son Père, Dieu, de pardonner à des gens parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est vrai. Le centenier romain ne comprenait pas qu'il était en train de crucifier le Fils de Dieu. Il veut obéir aux ordres sans chercher à comprendre. C'est quand Christ est mort, il a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Mais l'homme avait assez entendu. Il est un roi de la vérité et son royaume n'est pas de ce monde, c'est dans l'au-delà. Il a assez pour dire maintenant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il entendait par là, ce crucifié? Il entendait par là, quand tu finiras de mourir sur cette croix, Jésus, tu vas dans un autre monde comme nous tous. Moi aussi, je vais dans l'au-delà. Le copain là-bas, il va dans l'au-delà. Nous allons quitter ce monde. Dans quelques heures, nous serons morts et on va quitter ce monde. Ils avaient le temps de réfléchir hein, pendant qu'ils mouraient. Mais quand toi, Seigneur, tu quittes cet autre monde, tu vas dans l'au-delà et dans l'au-delà, tu es le roi parce que tu es Dieu. Alors quand tu seras dans ton royaume éternel, dans quelques instants, quand tu y seras, souviens-toi de moi. Autrement dit, reçois-moi favorablement. C'est pas juste souviens-toi, ah oui, je me souviens. Non, c'est pense à moi et prends-moi avec toi. Je veux être avec toi dans cet autre royaume. Parce que je sais qui tu es, je crois qui tu es. Il y a tout ça. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si on être vraiment dans le truc juif, dans la chronologie juive, aujourd'hui, c'était donc, c'était avant un sabbat, c'était avant un jour saint, et le sabbat commençait à 18h la veille. La veille. Et donc, selon la législation juive, il fallait absolument que les crucifiés soit descendu de la croix, que les croix soient vides et que tout soit descendu avant 18h, maximum. Jésus est décédé à 15h. À 3h de l'après-midi, il a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il est mort. Il a renvoyé son esprit à Dieu. C'est le seul qui a pu faire ça. Nous, on ne peut pas dire, « Je meurs. » Non. Jésus a pu rendre son esprit à son Père. Il est mort à 15h. Ça donne le temps à Joseph d'Arimathée et à Nicodème de venir réclamer son corps, de préparer le linceul et de le mettre dans le tombeau avant 18h. Les deux autres hommes survivaient à Jésus et peu de temps après 15h, on vient dire, bon, il faut que les deux hommes soient descendus, soient encore vivants. Et Pilate a fait ce que souvent on faisait à ce moment-là, quand il y avait un délai, ils ont dit, ben, cassez-leur les jambes, ce que voulait dire que la personne va s'affaisser, va s'asphyxier rapidement dans quelques minutes, ils vont mourir, et comme ça, le délai est respecté, ils vont être descendus de la croix avant 18h. Et ces trois juifs, parce que Jésus était juif, les deux autres hommes étaient juifs aussi, ils savaient qu'ils seraient tous morts avant 18h. Et donc cet homme savait qu'avant demain, avant 18 heures, il serait mort. Il savait qu'avant 18 heures, Jésus serait mort. Il savait qu'avant 18 heures, Jésus serait dans son royaume. Et Jésus a répondu aujourd'hui, donc dans la chronologie juive, aujourd'hui, dans quelques heures avant 18 heures, tu seras dans l'autre monde et tu seras avec moi dans l'autre monde. Autrement dit, je te retrouverai au ciel. C'est énorme. Vous imaginez, je ne sais pas comment a pu ressentir cet homme avec les derniers instants qui lui restaient à vivre, mais devait avoir une immense paix. La paix et la joie d'être sauvé. In extremis. On parle parfois des conversions comme le brigand sur la croix. À la dernière minute, des gens se tournent vers le Seigneur. Il y a un certain nombre de conversions comme ça. Des gens qui ont vécu 90 ans. Dans notre ville, village de La Rode, on a le monsieur qui nous a vendu nos immeubles pour le camp. Il avait des parents qui étaient, bon, communistes, anticléricales. Ils trouvaient tout ça vraiment pas très sérieux. Et donc, ils n'avaient ni foi ni loi, ils ne croyaient en rien. Et tous les enfants ne croient en rien. Mais parmi les petits-enfants, il y a une petite fille qui s'est convertie. Elle vit aux États-Unis, elle s'est convertie là-bas. Et un jour, elle est venue rendre visite à sa famille, à La Rode, parce que tout le monde est de La Rode. Et le père nous a dit, non, ma fille est comme vous, elle est évangélique et tout ça. Alors, on l'a rencontrée, effectivement, une communion tout de suite. Et elle nous a raconté une très belle histoire. Elle a dit, la dernière fois que j'étais là, mes grands-parents étaient encore en vie. Mais mon grand-père n'était pas loin de la mort, et je le savais. Et je voulais leur dire au revoir. Mais je voulais leur témoigner de Jésus. Je voulais à tout prix que mes grands-parents connaissent l'évangile et qu'ils se convertissent. Je souhaitais, je ne savais pas ce qu'il pourrait comprendre. Mais il a dit, c'est compliqué. On est de nombreux enfants, des tontons, des tatas. On ne peut jamais être avec mes grands-parents seuls. Et je priais, Seigneur, donne-moi une occasion, parce que si les autres sont autour, je n'aurai pas l'occasion de leur parler à cœur ouvert. Ils n'auront pas la liberté de me répondre à cœur ouvert. Et un jour, elle se trouvait chez eux et il n'y avait personne. Et l'Esprit lui a dit, c'est le moment. Et simplement, elle leur a expliqué l'évangile. Monsieur très âgé, n'avait jamais lu la Bible, n'avait jamais fréquenté une église, avait rejeté toute idée de religion depuis très longtemps. Mais il était âgé, il était malade, il savait qu'il n'en avait pas plus pour longtemps. Et elle leur a demandé, est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité? Et non. Et est-ce que vous aimeriez être sauvé, etc. Elle leur a expliqué l'évangile et les deux ont accepté le Seigneur. En quelques minutes. À peine la prière terminée, les gens sont arrivés. C'était une fenêtre d'opportunité très étroite. Et elle a dit, j'ai dû partir très rapidement chez moi et je n'ai pas pu faire un suivi avec mes grands-parents, mais mes oncles, mes cousins, mes frères et mes sœurs ont entendu à plusieurs reprises, ils ont dit, papi et mamie, quelque chose a changé en eux. Elle ne leur a pas dit tout ce qu'elle avait parlé avec ses... Quelque chose a changé, ils étaient joyeux et paisibles, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Et ils ont parlé, eux-mêmes, ils ont parlé, on a prié avec notre petite fille, on a parlé avec notre petite fille, et quelque chose a changé. Ils ont parlé de cette conversation, ils ont parlé de leur démarche, avec les mots qui étaient les leurs, parce qu'ils ne connaissaient rien au vocabulaire biblique. Et j'ai pu dire ça à leur fils qui nous a vendu les meubles. J'ai dit, vous savez, vos parents, vraisemblablement, sont au ciel. Et j'ai expliqué ce que sa fille a parlé avec ses grands-parents. Il était touché. Mais c'est vraiment, c'est le cas. Pareil, c'est en fin de vie, il vaut mieux tard que jamais. Mais quand la mort vient, c'est trop tard. En fin de vie, ce couple qui ne connaissait rien de Dieu, comme le brigand sur la croix, il en a compris assez pour être sauvé. Et ce qui est merveilleux, c'est que le salut est tellement simple. Il n'y a pas une pratique, il n'y a pas une église à laquelle se joindre. Dieu veut qu'on soit baptisé pour prendre position, pour témoigner publiquement pour le Seigneur, mais le brigand sur la croix n'avait vraiment pas le temps de se faire baptiser. Mais il était avec le Seigneur dans le ciel, parce qu'on n'est pas sauvé par le baptême, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et cet homme est passé de la croix directement dans la présence de Dieu. Et donc, c'est une promesse merveilleuse qui est proposée à chacun d'entre nous. Et ce serait absolument tragique que quelqu'un ici, après avoir entendu et lu cette histoire de ce brigand sur la croix, que quelqu'un parte en disant « Oh, j'aimerais bien recevoir le Seigneur, mais je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas assez bon. » Mes amis, on ne sera jamais assez bon pour accepter Jésus comme sauveur. De toute façon, il ne vient pas sauver des gens qui sont bons. Il vient sauver des pécheurs. Il vient sauver des gens malades. Des gens qui disent « Je suis condamné ». C'est ça que Jésus vient sauver. Il a sauvé cet homme, un criminel endurci, en une seconde. Parce que son sang nous purifie de tout péché. Et que faut-il faire? Il faut faire comme le brigand. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que sur la croix, tu m'as sauvé. Je reconnais que tu es le roi de la vérité et que tu habites dans l'au-delà, dans un royaume éternel. Et on peut dire comme ce brigand, Seigneur, souviens-toi de moi. Je place ma confiance en toi et vous pouvez être sauvé aujourd'hui même. En une seconde, c'est le regard de foi, comme avait cet homme. Vous êtes sauvé pour l'éternité. C'est pour ça que des gens qui vont en enfer, ils vont non pas parce que Christ ne veut pas les sauver, mais parce qu'ils refusent le salut. Puisque ça s'accepte gratuitement en un instant.